Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9¾, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9¾, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour mes chers sorciers, sorcières et moldus. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année 2022 pour un nouvel épisode de La Voix 9¾. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 en espérant que tout vous réussisse pour cette nouvelle année qui débute et que cette année soit magique. Et en parlant de magie, retrouvons ensemble l'univers de Harry Potter et plus particulièrement la deuxième année de Harry, où nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble quelques mots ou termes liés à Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je vous le rappelle rapidement, le rappel-tout, c'est l'épisode magique de courte durée ou pas, qui contient une à plusieurs petites descriptions spécifiques liées à la saga. Et on va commencer de suite avec le premier mot, elfe de maison. Eh bien, Harry en rencontre un dès le début de l'histoire, et il est décrit comme ceci. La petite créature avait de grandes oreilles semblables à celles d'une chauve-souris et des yeux verts globuleux de la taille d'une balle de tennis. Pour résumer, ce sont donc des créatures de petite taille qui ont des yeux globuleux et de grandes oreilles. Les elfes de maison sont soumis à l'esclavage depuis des années et se doivent de servir la famille à laquelle ils appartiennent à jamais. Les elfes sont vêtus de vieux morceaux de tissu, comme des têtes d'oreiller, des serviettes, et ne peuvent être libérés de leur servitude seulement si leur maître leur offre un vêtement. De par leur statut, il se peut que leur maître inflige des souffrances à leurs elfes de maison, comme les insulter, les menacer, ou leur faisant risquer leur vie. Et ainsi, ils sont considérés comme sans importance par certains sorciers. De plus, les elfes, s'ils désobéissent à leur maître, ils s'autopunissent de leur acte. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'elfe de maison qui apparaît dans la Chambre des Secrets. Et j'ajouterais qu'un elfe de maison est malheureusement habitué à vivre comme un esclave, et pour eux, en fait, être payé est une insulte, et être libéré est signe de la plus grande humiliation qui puisse exister. Toutefois, les elfes disposent d'une magie très puissante et différente de celle des sorciers, et peuvent, par exemple, transplaner dans des endroits où les sorciers ne peuvent pas aller. Mais les elfes ne peuvent utiliser la magie seulement sur autorisation de leur maître. Et vous savez quoi ? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, sachez que lors de la Coupe de Feu, Hermione, indignée et révoltée face au traitement que subissent les elfes de maison, elle crée la Société d'aide à la libération des elfes, la SAL, mais ça c'est Ron et Harry qui l'appellent comme ça, mais elle préfère dire S-A-L-E. Et malgré que des organisations et des projets de loi existent, c'est seulement à l'arrivée d'Hermione au ministère de la magie où les elfes commenceront à bénéficier d'un meilleur statut et que leurs droits seront améliorés. Le prochain mot dont j'avais envie de vous parler, c'est dégnomer. Et dégnomer, en fait, c'est le fait de chasser les gnomes qui ont lieu domicile dans votre jardin, par exemple. Les Weasley ont des gnomes dans leur jardin et Molly, donc la maman des Weasley, demande aux garçons de dégnomer le jardin. Je vais vous faire une petite lecture à la page
394.
Le retour de Rogue. Il nous avait manqué celui-ci un petit peu. Désolé professeur, mais c'est la page 44. Je vous situe l'histoire. Nous sommes dans les jardins de Weasley. Il y a Fred, George, Ron, Harry, et c'est tout. Ah non, et potentiellement parlant, des gnomes. Il y eut soudain une grande agitation dans les pivoines qui se mirent à remuer en tous sens et Ron se redressa en tenant une créature à la main. Ça, c'est un vrai gnome, dit-il d'un air sombre. Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix, couina le gnome. Il n'avait en effet rien à voir avec un Père Noël. Il était petit, avec une peau comme du cuir et une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemblait à s'y méprendre à une pomme de terre. Ron le tenait à bout de bras, tandis que la créature essayait de lui donner des coups de ses petits pieds noueux. Ron l'attrapa par les chevilles et le retourna la tête en bas. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, dit-il. Il leva le gnome au-dessus de sa tête, Fiche-moi la paix !» et le fit tourner comme un lasso. En voyant l'expression choquée de Harry, Ron expliqua. « Ça ne leur fait pas mal, simplement il faut leur donner le tournis pour qu'ils ne retrouvent plus le chemin de leur trou à gnome. » Il lâcha les chevilles de la créature, celle-ci fit alors un vol plané de plusieurs mètres et atterrit avec un bruit sourd dans le champ qui s'étendait de l'autre côté de la haie. « Ridicule !» dit Fred. « Je te parie que j'arrive à lancer le mien plus loin que la souche d'arbre là-bas. » Harry apprit très vite à ne pas trop éprouver de pitié pour les gnomes. Il décida de laisser simplement tomber de l'autre côté de la haie le premier qui l'attrapa. Mais le gnome, sentant une faiblesse de sa part, lui planta dans le doigt ses dents tranchantes comme un rasoir. Et Harry dut secouer frénétiquement sa main pour essayer de lui faire lâcher prise jusqu'à ce que « Bravo Harry, tu l'as lancé au moins à 15 mètres !» Et bientôt, les gnomes se mirent à voler en tous sens. Et vous savez quoi? On en parle uniquement dans les livres. Le prochain mot dont je vais vous parler, c'est le saule-cogneur. Et le saule-cogneur, c'est un arbre situé dans le parc de Poudlard. C'est un arbre magique qui attaque de ses branches quiconque qui s'approche de trop près. Il cache à ses racines un passage secret qui mène à la cabane hurlante de Préolard. On peut l'immobiliser en appuyant sur un nœud à la base de son tronc ou en lançant le sortilège Immobulus. Et vous savez quoi? Eh bien, dans les années 1970, il existait un jeu qui consistait à s'approcher suffisamment de l'arbre pour toucher le tronc. Après qu'un élève, un certain Dev Goujon, ait failli perdre un œil, cette pratique a été interdite. Ensuite, je vais vous parler des mandragores. Et la mandragore, c'est une plante magique que les élèves vont étudier lors d'un cours de botanique. Ils vont devoir la rempoter. La mandragore, elle possède de puissantes propriétés curatives. On l'utilise pour rendre leur forme d'origine ou leur santé aux victimes de métamorphoses ou de sortilèges. Elle constitue un ingrédient essentiel entrant dans la composition de nombreux antidotes. C'est aussi une plante dangereuse, parce que le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend. Les cris des mandragores très jeunes, qui en sont encore au stade infantile, ne peuvent pas tuer, mais seulement assommer pendant plusieurs heures. À la place des racines de la jeune plante, il y a une espèce de petit bébé très laid et plein de terre. Les feuilles de la plante lui sortent du crâne. Sa peau est marbrée et elle a une couleur vert pâle. Et Harry, pendant le cours, remarque qu'elle n'aime pas être sortie de la terre ni être rempotée. Et vous savez quoi? Eh bien, les mandragores, elles existent réellement. Alors, pas de la même manière, mais elles existent. C'est une plante officinale que l'on retrouve près de la Méditerranée, donc vers en Espagne ou en Grèce. On dit que c'est une plante magique qui permettait de guérir de nombreuses maladies grâce à toutes sortes de maléfices. Et en réalité, elle a des propriétés hallucinogènes. Et l'origine du mot mandragore est mandragoras en grec, et pour certains, son nom viendrait de la mandragore en assyrien, qui veut dire Namtar-Ira, ce qui signifierait la drogue de Namta. Et Namta, c'est un démon qui provoque des maladies. Et pour d'autres, l'origine du mot viendrait donc de mandros, qui signifie sommeil, et agora, qui signifie substance. Le prochain mot dont je vais vous parler, c'est sang de bourbe. Sang de bourbe, c'est une insulte adressée à un sorcier né moldu, ce qui signifie que leur sang serait impur par rapport au sorcier de sang pur. Et vous savez quoi? Eh bien, Hermione ne connaît pas la signification de ce terme dans le livre, contrairement au film où elle sait exactement ce que ça veut dire. Le prochain mot dont je vais vous parler, c'est vite magique. Vite magique, ce sont des cours par correspondance pour sorciers débutants. Je vais vous lire le passage où Harry découvre cette lettre dans le bureau de Ruzard. Page
394.
Il est coriace, Rogue. C'est page 138. Vite magique, cours par correspondance pour sorciers débutants, donc c'est ce qui est écrit sur l'enveloppe. Intrigué, Harry ouvre l'enveloppe, retira le morceau de parchemin qu'elle contenait et lut le texte qu'il avait sous les yeux. Vous vous sentez déboussolé dans le nouveau monde de la magie? Vous n'osez plus jeter de sorts en public par peur de paraître ridicule? Tout le monde éclate de rire quand on vous voit tenir votre baguette magique? Il existe une solution à vos problèmes. Vite Magique est une méthode entièrement nouvelle, rapide, facile, aux résultats garantis. Des centaines de sorciers et de sorcières en ont déjà bénéficié. Madame Desorties, de Topsham, nous écrit. Je n'arrivais jamais à me souvenir de mes formules magiques et mes potions étaient un sujet de plaisanterie pour toute ma famille. Maintenant, après avoir suivi la méthode Vite Magique, je suis la vedette de toutes les soirées et mes amis me supplient de révéler la recette de ma poudre à briller. Le sorcier DJ Prod de Didsbury nous dit « Mon épouse se moquait de la faiblesse de mes charmes, mais après m'être plongée un mois dans votre fabuleuse méthode Vite Magique, j'ai réussi à la transformer en zébu. Merci, Vite Magique. Et vous savez quoi? Eh bien, J.K. Rowling a indiqué que les cours de Vite Magique de Ruzard n'ont jamais rien donné. Elle a dit ça dans un sujet consacré aux craquemolles sur son site, parce que l'efficacité de la méthode sur les craquemolles est nulle. Je vais ensuite vous parler du mot polynectar. Et le polynectar, c'est une potion qui permet de prendre temporairement l'apparence d'un autre être humain. La recette se trouve dans le livre « La potion des grands pouvoirs » qui se trouve dans la réserve de la bibliothèque de Poudlard. Et pour réaliser la potion, il faut 7 ingrédients au total. Des chrysopes, ce sont des insectes ailés, des sangsues, du cisimbre et du polygonome. Donc le cisimbre et le polygonome, ce sont des plantes. Ensuite, il faut de la corne de bicorne en poudre, de la peau de serpent d'arbre du Cap et d'un morceau dont il faut prendre l'apparence. Et d'après les écrits de J.K. Rowling, elle ajoute en fait que cela peut être n'importe quoi, des ongles, des pellicules ou pire. Mais il est plus habituel d'utiliser des cheveux. L'effet de la potion n'est que temporaire et selon la qualité de son infusion, elle peut durer entre 10 minutes et 12 heures. Vous pouvez changer d'âge, de sexe et de race en prenant la potion, mais pas d'espèce. Et la préparation du polynectar nécessite un mois. Donc au total, il y a besoin de 7 ingrédients et il faut la préparer pendant un mois. Et vous savez quoi? Eh bien, J.K. Rowling a écrit un peu ses pensées. Elle dit « Je me souviens avoir créé la liste complète des ingrédients de la potion polynectar. Chacun a été soigneusement sélectionné. La première partie du nom de l'un des ingrédients suggérait un entrelacement ou une liaison entre elles de deux identités. Les sangsues, c'est pour aspirer l'essence de l'une et de l'autre. Et pour la corne d'un bicorne, c'est l'idée de dualité. » Elle ajoute aussi que le fait qu'Hermione soit capable de fabriquer une potion de polynectar compétente à l'âge de 12 ans, cela témoigne en fait de sa capacité magique exceptionnelle, car c'est une potion que de nombreuses sorcières et sorciers adultes craignent de tenter. Et la recette complète est sur le wiki Harry Potter, je vous mets le lien dans la description, mais c'est marrant parce qu'ils disent par exemple ajouter 2 chrysopes et tourner 2 fois, enfin c'est assez drôle, je pourrais vous le lire, tiens, je vais vous la lire vite fait. Alors, la préparation, elle se fait en 2 parties. La première partie, ajouter 3 mesures de cisimbre dans le chaudron, ajouter 2 bottes de polygonome dans le chaudron, mélanger 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, laisser bouillir 60 à 80 minutes, ajouter 4 sangsues dans le chaudron, ajouter ensuite 2 chrysopes dans le mortier, écraser avec le pilon jusqu'à l'obtention d'une poudre fine, ajouter 2 mesures de chrysopes dans le chaudron, faire chauffer à feu doux pendant 30 secondes. Ensuite, nous avons la seconde partie. Ajouter 3 mesures de peau de serpent d'arbre du Cap. Ajouter 1 mesure de corne de bicorne dans le mortier, écrasé finement. Ajouter 1 mesure de corne de bicorne écrasée dans le chaudron. Faites chauffer à une température élevée pendant 20 secondes. Agitez votre baguette au-dessus du chaudron. Laissez bouillir pendant 18 heures à 24 heures. Ajoutez une chrysope dans le chaudron. Mélanger 3 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et éléments du corps d'une personne. Donc voilà pour la recette complète du polynectar. Si vous voulez tenter, écoutez, pourquoi pas? Et il explique que, avant l'ajout de l'élément du corps de la personne dont on souhaite prendre l'apparence, la potion a un espèce de vase épaisse ou de boue. Après son ajout, le liquide se met à siffler et à écumer. L'aspect final est variable, ainsi que son goût. Ils dépendent du caractère de la personne que l'on cherche à imiter. Ensuite, le prochain mot dont je vais vous parler, c'est fourche-langue. Et fourche-langue, c'est un langage, et plus particulièrement la langue des serpents. C'est une aptitude très rare chez les sorciers qui est d'ailleurs souvent associée aux forces du mal. Effectivement, dans l'histoire des sorciers, en fait, si je peux dire, il y a Herpo l'infâme et Salazar Serpentard qui sont des fourche-langues connues dans le monde des sorciers et des adeptes de la magie noire. Les fourches-langues ont donc la capacité de parler aux serpents, et c'est perçu pour ceux qui ne le parlent pas comme un sifflement étrange. D'ailleurs, Harry maîtrise le fourche-langue grâce au fragment d'âme de Voldemort, mais j'ai vu et j'ai appris, et ça paraît logique, il perd cette capacité lorsque ce morceau d'âme a été détruit. Et vous savez quoi? Eh bien, la baguette de Salazar Serpentard peut être réveillée ou endormie grâce aux fourches-langues. Et je vais ajouter en plus que l'anglais utilise 2 termes différents. L'un pour désigner ceux qui parlent fourche-langue, donc ça se dit, excusez-moi pour l'anglais, mais ça se dit parcel mouse, et l'autre pour désigner la langue elle-même, parcel tongue, et tandis que le français les réunit en fait sous un seul et même terme. Et je vais finir par vous parler du dernier mot qui est basilic. Et le basilic, ce n'est pas l'herbe aromatique que l'on connaît, mais dans le monde des sorciers, c'est l'une des créatures magiques des plus dangereuses. Donc je préfère vous lire la description de Norbert Dragono dans son livre, page
394.
43 et non page 394. Alors le basilic, également désigné sous le nom de roi des serpents. Le basilic a une classification MDLM 5X, donc pour vous rappeler un peu la classification du ministère de la magie, 5X est connu pour être un tueur de sorciers, impossible à dresser ou à domestiquer. Et pourtant, Norbert dit « Le premier basilic répertorié a été élevé par Herpo l'infâme, un sorcier grec adepte de la magie noire qui parlait le fourche-langue. Après avoir mené de nombreuses expériences, il découvrit qu'un œuf de poule couvé par un crapaud donnait naissance à un serpent gigantesque, doté de pouvoirs extraordinairement dangereux. Le basilic est un serpent d'un vert brillant qui peut atteindre une longueur de 15 mètres. Le mâle porte une plume écarlate sur la tête. Ses crochets injectent un venin particulièrement redoutable, mais son arme la plus terrifiante reste le regard de ses immenses yeux jaunes qui ont le pouvoir de tuer instantanément quiconque a le malheur de les fixer. Lorsque ses ressources alimentaires sont suffisantes, le basilic se nourrit de mammifères et d'oiseaux, quels qu'ils soient, ainsi que de la plupart des espèces de reptiles. Le serpent peut atteindre un âge très élevé. On pense que le basilic de Herpo l'infâme a vécu près de 900 ans. La création de basilic est illégale depuis le Moyen-Âge, bien que cette pratique puisse être aisément dissimulée, il suffit d'ôter l'œuf de sous le crapaud qui le couve, lorsque des représentants du département de contrôle et de régulation des créatures magiques procèdent à une vérification à domicile. Toutefois, les basilics n'étant contrôlables que par des sorciers capables de parler le fourche-langue, ils restent dangereux pour la plupart des mages noirs comme pour quiconque d'autre. Et il y a maintenant 400 ans au moins qu'on n'en a plus vu en Grande-Bretagne. Donc voilà ce que dit Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques Vie et Habitat. Et passons maintenant à ce que Hermione a trouvé sur le basilic, page
394.
Alors à 91 pages près, toujours pas professeur, c'est page 303. De tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, il n'en est guère de plus étrange ni de plus mortel que le basilic. Connu également sous le nom de roi des serpents, ce reptile qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre plusieurs centaines d'années, naît d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Pour tuer ses victimes, la créature recourt à une méthode des plus singulières. Outre ses crochets venimeux, le basilic possède en effet des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard. Il répand également la terreur parmi les araignées dont il est sans nul doute le plus mortel ennemi. Le monstre, quant à lui, redoute plus que tout le chant du coq qui lui est fatal si d'aventure il lui parvient aux oreilles. Il aurait fallu que Harry entre dans la chambre des secrets avec un coq, en fait. Et vous savez quoi ? Eh bien, le basilic n'a pas été inventé de toute pièce par J.K. Rowling, parce que le basilic vient de la mythologie. Et dans la mythologie, en fait, le basilic, c'est une bête du coup qui est légendaire et elle est souvent représentée comme un reptile. Elle est mentionnée dès l'Antiquité gréco-romaine comme étant un petit serpent au venin et au regard mortel. Après, donc, dans le Moyen-Âge, il fut plus souvent décrit comme un mélange de coq et de serpent. Donc vous voyez, c'est pas un énorme serpent, mais voilà, elle a pris des petites choses et elle en a fait le basilic de Harry Potter, en fait. Et moi qui ai fait des études d'art, en fait, j'ai vu en faisant mes petites recherches que le basilic qui est présent dans les arts, donc il est représenté notamment pour décorer des fontaines. Je ne sais pas si J.K. Rowling avait cette information. Et c'est drôle parce que du coup, ça fait un rapprochement avec l'entrée de la Chambre des Secrets et notamment Harry qui découvre un serpent sur le robinet, en fait. Donc voilà, je voulais juste rajouter cette petite chose. Je trouvais ça « drôle », entre guillemets. Donc voilà pour les mots et termes liés à Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez découvert quelques petites choses plutôt sympathiques. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le podcast. D'ailleurs, vous pouvez depuis peu le noter sur Spotify. Et merci d'ailleurs pour vos notes, ça me touche énormément et je vois à chaque fois vos retours, c'est juste génial. Enfin, je ne vous le dirai jamais assez, mais merci sincèrement de m'écouter. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast. Et si vous m'écoutez sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire et aimer l'épisode, ça fait toujours plaisir. Et si vous m'écoutez sur les autres plateformes, n'hésitez pas à regarder si vous pouvez commenter ou noter, aimer, partager, enfin, tout ce petit tralala habituel. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9¾, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox !